L'Arrêt aux pages, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
J'inventerai mon peuple, affirmait Arlette Daumont dans son premier titre consacré à l'Algérie. Revenant sur les étapes de sa prise de conscience, depuis le Front populaire en 1936, en passant par le débarquement des Alliés en 1942, jusqu'à l'effet des Trente Glorieuses dès 1945 sur sa jeunesse heureuse, elle constate que c'est la déflagration de la guerre d'Algérie en 1954 qui la mènera à réajuster son regard à la recherche du vrai. Sur la fin de sa très riche vie, elle rassemble son travail comme on inventorie un héritage pour le mettre à l'abri de l'oubli. Témoignage vivant d'un vaste réseau d'amitié qui ne cesse de grandir et de la conforter, elle affirme, confiante et apaisée, « Mon peuple existe, je l'ai rencontré ». Je viens de vous lire la quatrième de couverture de « Avant que ma bibliothèque ne brûle », sortie en 2024 aux éditions Mars A. Son autrice est sur l'antenne de Radio FM+, pour nous en parler aujourd'hui dans Aéropage. Bonjour Arlette Welty-Daumont.
Bonjour Nathalie.
Je suis ravie de vous retrouver.
Et moi de même.
On s'était rencontrés il y a un peu plus d'un an.
Oui, autour
de votre dernier ouvrage, qui était Les couteaux dans l'eau, avant-dernier ouvrage. Oui. Et il y avait plein de belles choses que vous nous aviez dit. Puis vous m'aviez présenté des amis de l'Arbi. Il y a plein de gens que vous m'avez aussi. Ouais. Un autre monsieur qui a écrit sur l'Algérie beaucoup, qui est un ami à vous. Ah voilà, la mémoire va pas nous revenir l'une et l'autre, mais ça me reviendra. Mais il y avait de très très beaux contacts qui étaient nés de cette rencontre. Pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, même si je pense qu'ils vont être nombreux à vous connaître, vous êtes né en 1929 à Alger, dans un milieu protestant. Quatre générations avant vous ont vécu en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de l'histoire de cette famille, d'ailleurs qu'on retrouve dans le livre?
Oui, parce que le premier à arriver sur ce sol algérien, c'était je sais pas son grade, mais disons quelque chose comme soyons généreux, un sergent huguenot qui arrivait de Florac, qui s'appelait Doyon, et qui a fait souche. Donc mon arrière-grand-mère, qui était sa fille, est née là, voilà. Ce qui fait que ça fait de moi la quatrième génération, et de notre fils aîné, la cinquième.
Et l'Algérie de cette époque-là, c'était, on a tous, enfin, ma génération, on a un peu l'image de l'Algérie des pieds noirs qui était
oui.
riche, etc. Non, il y avait aussi une...
La vision coloniale de l'Algérie.
Oui, tout à fait.
Oui, je vois. Je peux dire que, en tout cas, bon, dans ma famille, on n'avait pas de colons. Les colons étant, bien entendu, pour nous, ceux qui possédaient du terrain en Algérie. Ce qui n'était pas notre cas, on avait des commerçants, des fonctionnaires, voilà quoi, c'était pas plus que ça. Et cette vie-là, c'était celle que tout le monde pouvait avoir à cette époque-là, à Paris, à Lyon, surtout qu'Alger était une très très belle ville, très grande, très très enrichissante, avec beaucoup de choses. Un petit Paris, quoi, en quelque sorte.
Là, il y a une ressortie, je ne sais pas si vous avez vu au cinéma, mais vous allez peut-être plus au cinéma, Arlette. Vous y allez encore ?
Plus tellement, non.
Il y a le...
Ma fille y va pour moi, elle va.
Oui, bah, votre fille, oui. Je rappelle que la fille d'Arlette, c'est Arielle Daumont qui anime chez nous à la Radio FM+, l'émission Sine qua non. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle version de L'Étranger qui sort.
Ah oui, j'ai entendu parler
au cinéma,
ça.
Ouais, oui. Par Ozon, par François Ozon. Moi, j'avais vu la version avec
Mastroianni.
Avec Mastroianni, oui, version très étrange, parce que pour moi, Meursault, c'est pas du tout Mastroianni physiquement, je le voyais pas comme ça.
Oui.
Mais par contre, je me rappelle très bien du début du film, de cette Algérie, cette terre algérienne rouge, quand ils suivent le corbillard de sa mère.
Ah oui.
C'est une partie magnifique. Enfin, je sais pas si on aura l'occasion de le voir et d'en reparler. Je voulais revenir justement sur cette période. Vous vivez à Montpellier depuis 1962, mais vous êtes revenu en France avant la fin des
oui.
événements de la guerre d'Algérie.
Nous sommes arrivés en France quand Jean a été démobilisé un petit peu plus tôt en tant que père de famille, puisqu'on avait un enfant. et que la fédération protestante l'a récupéré tout de suite. Donc on est arrivé en 55, l'hiver 55.
À Clermont-Leroux, non, c'est ça?
Non, d'abord au Vigan. On a fait, Jean a fait une passation de pouvoir au Vigan. Puis ensuite, après, ça a été Clermont-Leroux définitivement pour 10 ans, là. Et là, nous avons eu 3 autres enfants.
Et c'est un souvenir de notre entretien d'il y a un an et demi dont je me souviens avec des mots très forts que vous aviez dit à l'époque, Arlette. Si j'étais partie en 62, je ne sais pas si j'aurais été pareille.
Exactement.
Ouais. Vous pouvez revenir là-dessus, parce que vous voyez, je m'en rappelle encore comme une phrase grave, en disant, je ne sais pas quelle femme je serais devenue si j'avais vécu la guerre d'Algérie.
Oui, je ne dirais pas que je serais peut-être, je serais devenue OAS, je ne pense pas jusque-là, mais il faut voir. Parce que les pieds noirs avaient quand même la conscience d'une énorme supercherie. On leur avait dit, l'Algérie, c'est la France. Et ils y croyaient dur comme fer. Et petit à petit, l'Algérie s'est délitée. Et la patrie française a pris fait et cause pour les Algériens. Ce qui, je vous le signale en passant, me semblait assez étrange aussi. Moi, j'étais dans le bain pied noir, et je ne voyais pas l'intérêt de ces autochtones que je fréquentais depuis ma petite enfance, et que bon, je pensais un peu comme nous, quoi, et qu'il y avait, je sais pas, j'avais pas du tout l'idée d'une supériorité coloniale au-dessus d'eux.
D'ailleurs, enfin, vous disiez algérienne, vous m'aviez dit, je suis algérienne.
Ah, oui, moi je disais toujours, les Algériens c'était nous et eux c'était les Arabes. Alors les Arabes, c'était les Kabyles, les Berbères, enfin tout ce qu'on veut, quoi.
Avec cette ambiance qu'on retrouve beaucoup dans Les Couteaux dans l'eau, de jeunesse insouciante, un peu à côté. Absolument. De ce qui se passait. Alors après, on avait parlé de Camus et des noces, misère en Kabylie, etc. Mm-hmm. Les textes très très forts de Camus, qui parlent de ce qui se passait dans les campagnes, parce que déjà, vivre en ville ou vivre dans les campagnes,
absolument,
c'était pas du tout pareil.
C'est ça. Moi, ce qui a tout dévarié, c'est que nous vivions dans une ville française. Je vous dis, c'était un petit Paris. Il y avait vraiment des magasins, des hôtels, un tas de choses qui faisaient penser à Paris. Et on n'avait pas l'idée de penser aux autres qu'à nous. Quoi. On vivait bien et les autres étaient tranquilles. Donc, on pensait que tout le monde avait adopté ce consensus. Et puis voilà, que tout le monde était content dans son coin.
Après les Cévennes, l'arrivée à Montpellier, Jean, qui est à côté de nous, à qui on dit bonjour, c'est quel poste de pasteur il occupe
Il a pris la paroisse du Vigan. La paroisse du Vigan, c'était... Alors, ça remonte.
Il faut aller chercher, il faut gratter, là.
C'était Wagner qui est venu après, non? Il me semble que c'était Guy Wagner qui est venu après nous. Jean a servi d'intermédiaire entre les deux, et l'autre, je me rappelle plus celui qui est parti.
Et après Montpellier, ça a été
Alors Montpellier, ça a été l'appel de la gerbe, avec bien entendu ce travail de jeunesse qui lui convenait comme un gant, mais quand même on est parti un peu avec réticence de Clermont-Leroux, parce que Clermont-Leroux, c'était une paroisse qui naissait sous nos yeux, et on était admiratif de ces jeunes qui étaient inventifs, qui étaient bien comme tout, et qu'il a fallu abandonner.
Et Montpellier, il y avait déjà eu ces tensions qu'il y avait entre les temples, tout ça. Il y a eu plein d'histoires sur Montpellier. Ça, c'était résolu déjà?
Je sais pas si c'était résolu. J'entendais bien parler de ceux du temple et ceux de la chapelle.
Voilà, c'est ça.
Mais bon, moi, ça me disait rien du tout. Je veux dire, j'en ai pas fait état.
La gerbe, il y avait déjà cette belle idée qui a...
La gerbe, c'était la jeunesse protestante. Beaucoup de scoutisme et la jeunesse protestante. Bon. Et Jean, quand il est arrivé là, avec ses instincts de pirate, il a voulu tout de suite ouvrir la gerbe à tous les jeunes de Montpellier. Ça a été, je crois, la première maison des jeunes de Montpellier.
D'ailleurs, qui a presque inspiré les maisons des jeunes après.
Ah, oh, ça, je sais pas si elle a
mais il y a toujours, hein.
En tout cas, ça s'est fait comme ça. C'est vraiment, c'était la première, même qui s'était fait tenser par l'adjoint au maire, qui trouvait que, il n'y avait pas besoin de d'animation pour les jeunes, qu'ils avaient tous leur papa et leur maman, ils étaient bien élevés.
Mais il y a toujours un groupe d'adolescents très, d'abord, ça héberge toujours le scoutisme, bien sûr. Mm-hmm. Et puis, il y a un atelier d'adolescents formidable. C'est toujours un lieu de vie quand même, la Gerbe.
Ah oui, bon, on
vous avez encore des contacts
encore. Ouais. Oui, on a des contacts, surtout avec les anciens gerbistes qui sont maintenant grands-pères, c'est très rigolo.
Et puis après, il y a la CIMAD. Alors la CIMAD, ça c'est des années à la CIMAD. CIMAD, je rappelle que nous avons maintenant une émission mensuelle avec la CIMAD. Oui, ça y est, on a réussi à la faire. Ouais. C'est, je crois, Babette Soulier ou Anne-Marie Borne qui l'anime. Et CIMAD qui est attaquée quand même en ce moment à toutes les associations comme ça qui sont d'aide aux migrants sont vraiment frontalement attaquées par tous les gouvernements en ce moment. Quel souvenir vous en avez de ces 17 ans à la CIMAD?
Ces 17 ans à la CIMAD, ça m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire, je me suis trouvée tout de suite d'emblée avec des collègues de travail qui de toute nationalité. C'était très, très intéressant de voir surtout des Latino-Américains qui étaient à ce moment-là assez pourchassés par leur gouvernement.
Oui, c'est les années dures pour l'Amérique latine.
Ah là, ça,
on a oublié quand même hein, ces périodes.
Mais ça a été l'origine de mon premier livre, ça, parce que vraiment.
L'Argentine, le Chili, oui, tout ça, c'était des pouvoirs
les Chili,
fascistes.
On en a reçu beaucoup aussi. Oui, non. Ça a été pour moi. Je me disais, mais enfin, ces gens-là, ils étaient chez eux, on les a chassés eux aussi, mais pas dans les mêmes conditions, mais. Non.
C'est vrai que c'est des pays, et on le revoit en ce moment avec ce qui se passe en Israël, qui ont un rapport au colonialisme très à fleur de peau.
Évidemment. C'est épouvantable. Mais enfin, ça, il a fallu quand même que j'ai le nez dessus pour m'en rendre compte. Et ça a été une bonne chose. Alors, la CIMAD m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et notamment, il y avait de temps en temps des rencontres avec les équipiers, comme on dit à la CIMAD, les équipiers d'Afrique du Nord, ceux qui avaient travaillé dans les mechtas d'Algérie, dans les camps de regroupement et tout ça. Et j'ai appris cette histoire des Arabes, finalement. Je l'ai appris par mes collègues français, c'était... À ce moment-là, je me suis dit, au fond, c'est peut-être bien qu'on soit là de ce côté, de voir un autre aspect des choses.
On va revenir vers Arlette Welty-Daumont, autrice. Le premier, donc, Soleil de justice, comment vient le goût d'écrire? Vous l'avez toujours eu, Arlette, le goût d'écrire? Ou tout d'un coup, il fallait absolument mettre sur un papier ce que vous étiez...
Je crois que sans le savoir, je vais un petit peu douée quelque part quand même, parce que... Je me souviens d'une rédaction que j'avais faite à l'âge de 8 ans. En rentrant de vacances, comme toutes les institutrices disaient, racontez vos vacances, etc. Et moi, j'ai tout de suite trouvé une tournure journalistique. Le premier mot, c'était « la voilà », disait, c'était ma grand-mère qui m'avait vu la première. Alors, c'est quand même pas, je pense que c'est pas tout à fait normal pour un gamin de 8 ans d'écrire comme ça. Donc, je devais avoir quelque chose, voilà.
C'était votre incipit à vous?
Pardon?
C'était votre incipit à vous?
Oui,
comme,
oui.
Vous parlez de Camus, ouais.
Oui, tout à fait. Alors, vraiment, c'est, bon, moi, j'ai déceler la première intention à ce moment-là. Mais après, c'est vrai que j'aimais beaucoup la littérature. J'étais fascinée par les poèmes de Victor Hugo. J'ai tenté d'en faire. C'était pas terrible, mais enfin bon.
Est-ce que dans les années 60, enfin même avant, 50, il y avait en Algérie une littérature forcément algérienne?
Oui, mais je ne la connaissais pas. Moi, j'étais en train de faire mes études et on n'avait pas de contact, alors que j'aurais pu avoir, on aurait pu, c'était pas à nous, lycéens, faire ça. mais nos professeurs auraient pu nous faire mettre en contact avec Camus, ne serait-ce qu'avec Camus, ou bien Audibert, enfin il y avait un tas de gens qui étaient là.
J'ai appris il y a peu de temps qu'il y avait Max-Paul Fouché qui vivait bien sûr. À l'Algérie, ouais.
Bien sûr.
Qui était de la génération de Camus d'ailleurs à peu près.
Oui, et qui faisait des émissions à la radio. Après, aussi. Alors ouais, là j'écoutais la radio, j'écoutais beaucoup.
Des émissions sur la poésie notamment, des grandes émissions sur la poésie.
Oui,
Max-Paul Fouché.
Oui.
Et j'ai appris il y a pas longtemps aussi qu'après avoir vécu donc quasiment, je crois qu'il était même ému avec Camus. Il a fini sa vie à Vézelay. Et il y a toujours la maison de Max-Paul Fouché à Vézelay. Des histoires de vie.
À Vézelay aussi.
Ouais.
Ah, parce qu'il y a Jules Roy.
Ouais.
La maison aussi. Là je la connais.
Ouais. Parce que très jolie maison de Jules Roy.
Je suis allée déjeuner chez Jules Roy parce que mon grand-oncle René Louis Doyon avait été justement le mentor de Jules Roy quand il est arrivé en France. Et mon grand-oncle, bien entendu, m'a présenté à Jules Roy, un tas de choses, de gens, un tas d'auteurs aussi. Alors j'étais très, très honorée.
Mais je comprends. Avant de passer au livre et de parler de ce livre qui est la somme de vos livres, je vous ai senti un peu émue tout à l'heure, Arlette, mais j'aimerais bien avoir votre regard là-dessus, parce que bon, on a 30 ans de différence, toutes les deux, à peu près. Et moi, je suis d'une génération où je pensais que ce qui est en train d'arriver dans le monde aujourd'hui n'arriverait plus jamais. Évidemment Poutine, évidemment Trump, évidemment ce qui se passe en Israël. Vous qui avez connu quand même, en étant né à 29, oui, tous les grands combats et les grands drames du XXe siècle.
Vous pensez, j'ai connu les, je raconte justement que, à Alger, nous avions le Centre culturel américain. C'était dans les années 43, je pense, qui ont commencé à publier les photos des camps de concentration. Et ça m'a démoli, mais à un point, c'est affreux. Je me disais, mais comment ça peut exister? Et même, j'avais mis ma foi un petit peu en équilibre. Je suis allée trouver mon pasteur et je lui dis, c'était Pentecôte, je crois que je ferai pas ma communion, c'est pas possible. J'ai trop de haine dans le cœur pour les Allemands. Et ce brave homme, ce qui était Raymond Lénard, qui n'était pas n'importe qui, m'a dit, mais les Allemands, ça a été les premiers à essuyer les camps de concentration.
Bien sûr.
Il m'a dit, ne t'imagine pas que c'est une question de pays. C'est une question de sentiment, de conviction. Et là, ça m'a fait regarder, pour la première fois, je crois, la vie de notre point de vue, ce que la CIMAD a confirmé par la suite.
Et ce qui se passe en ce moment, ça vous fait de la peine? Plus que ça?
Tu vois, c'est, ça aussi, c'est démolissant. Quand vous voyez un Netanyahou qui se suicide et qui suicide son peuple
avec.
Ouais. C'est affreux. Mm-hmm. C'est affreux. Alors, enfin bon.
En plus, vous êtes une femme croyante. Enfin, moi, je ne le suis pas. Vous savez, on avait partagé là-dessus. Hein.
Oui.
Mais que ça soit fait au nom de Dieu.
Au nom de la Bible. Au nom de la Bible. Torah. Mm-hmm. Non, c'est de la rigolade, ça. Mm-hmm. Enfin,
on va passer à la littérature après notre pause musicale.
Oui.
Et on va parler de livres, voilà. Mais j'avais envie de vous entendre dessus parce que je sais que vous êtes aussi une femme engagée, Arlette. Donc c'est important, c'est important.
Oui, merci.
On marque une petite pause musicale et on se retrouve juste après. À tout de suite. Yeah, yeah.
Jet ski in an avalanche. Yeah, cafons.
Et vous êtes toujours sur Radio FM+, dans l'émission Arrêt aux pages. Et je suis toujours en compagnie d'Arlette Daumont qui nous parle de son livre paru en fin d'année dernière, Avant que ma bibliothèque ne brûle. D'abord, c'est un beau titre, mais comment et pourquoi ce livre, Arlette?
Oui. Eh bien, pour tout vous dire, je peux le dire à la radio parce que là, on me voit pas et on peut pas dire, ah, mais on savait pas votre âge. J'ai quand même 97 ans, 18, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai
1929
non, 96.
Ouais, 96. Ah, ouais, n'ayez pas la coquetterie de vous vieillir.
Non, mais à 96 ans, quand même, je me dis, ben ça va bien faire maintenant, non? Et quand même, j'avais encore des choses à dire, j'avais envie de dire des choses, surtout sur l'Algérie actuelle. Parce que tout ce que j'ai... C'était, les témoignages, c'était de l'Algérie que j'ai découverte... Il y a quand même assez longtemps, mais là maintenant, il s'est passé des choses qui m'ont enthousiasmé, il y a eu des expositions de peinture de peintres algériens qui ont été permis ici par des mécènes en Cévennes qui vraiment ont bien travaillé pour la musique aussi. Alors la musique, il y a des orchestres entiers qui sont fabriqués d'Algériens et de Français. Alors ça donne des choses formidables. Moi qui suis allée, qui ai vécu dans la musique aussi très très longtemps, parce que mon père avait un magasin de musique à Alger. Et donc je vois un peu ce que ça peut donner, les deux musiques confondues, quoi. C'est extraordinaire. Donc tout ça, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de dire à mes amis algériens, voilà, on vous aime, on j'ai envie de vous voir. Et alors en effet, c'est que nous avons maintenant des amis algériens qui nous ont invités, que nous avons invités aussi. Donc on a vraiment des rapports très très amicaux avec des Algériens qui connaissent notre histoire. Et...
C'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui sont très offensifs vis-à-vis de l'Algérie, notamment autour de l'affaire de l'écrivain qui est emprisonné.
Oui, le Boualem Sansal, évidemment. Ouais. Non, mais ça c'est la politique.
Et ouais.
Alors il faut pas mélanger la politique et le peuple. Moi, c'est ça que j'ai finalement compris, que le peuple algérien n'avait rien à voir avec sa politique. Si le peuple algérien avec le Irak, quand ils ont fait leur grande révolution pacifique, ça c'était merveilleux, parce qu'ils se sont servis de l'humour pour vilipender leur dirigeants.
C'était... Après, je pense qu'on a très peu parlé en France. Vous m'en avez parlé. Et à travers, je suis désolée de ne pas me rappeler de son nom, mais d'un ami à vous qui a écrit sur les années noires, un livre sur les années noires. J'arrive pas à me rappeler de son nom, je m'en veux. J'espère que d'ici la fin de l'émission, on s'en rappellera. Moi, c'est vrai que j'avais des amis algériens à cette époque-là, surtout une amie algérienne, Bartia, et je disais, pourquoi tu vas jamais en Algérie? Ben, parce que, et voilà. Et j'ai compris, il y a très peu de temps, et grâce à vous, ce qu'avaient été les années noires 1990 et 2000, quoi. C'est l'horreur que le peuple avait vécu, le nombre de morts.
Vous avez lu,
je l'ai reçu pour ce livre après votre visite. On s'est pris en contact, et en plus c'est un homme passionnant. Il est venu avec son épouse adorable, vraiment. Ça a été un très beau moment. Mais moi, franchement, je suis passée. Bon, alors 90, je venais d'être maman, hein, donc voilà, peut-être que j'avais d'autres priorités, mais j'ai l'impression d'être passée complètement à côté du drame du peuple algérien des années noires.
Alors à cette époque, moi j'étais à la CIMAD précisément, nous venions de faire un voyage de 15 jours en 87, mais alors tout seul, tous les deux dans notre Peugeot, dans notre voiture, jusque dans le Sahara et revenir sur Alger. Et là on a eu des contacts avec les gens du bled, comme on dit, quoi, des gens qui... on n'aurait pas eu l'idée à qui on n'aurait pas eu l'idée de parler il y a 20 ans, 30 ans. Tandis que là, on a directement vers eux, ils venaient vers nous, enfin bref, on a transporté des gens avec notre voiture. Mmh. Enfin bref, ça a été merveilleux, merveilleux. Et alors on a fait des rencontres extraordinaires à ce moment-là. Et à ce moment-là, on a rencontré le père Cominardi, donc qui fait l'objet de mes livres.
Les chapitres.
Et qui est un dominicain et qui non pardon pas un jésuite. Qu'est-ce que c'est un jésuite je sais plus. Enfin bref, peu importe. C'est un catholique en tout cas, et un homme extraordinaire et avec qui on a beaucoup parlé et avec qui on a beaucoup travaillé avec la CIMAD, parce que justement quand nous sommes revenus après en 88, ça a été la catastrophe, quoi. Ça a été
le début des années noires. Ouais.
Voilà. Et donc là, à ce moment-là, il a fallu sauver des jeunes, il a fallu surtout sauver des filles, et avec François Cominardi, la CIMAD a réussi à placer des jeunes filles dans des établissements ou bien dans des on a mis les gens de côté, quoi, à essayer. Ça a été assez douloureux, mais je veux dire assez exaltant, parce que là on n'avait pas le temps de pinailler, hein. Il fallait vraiment sauver les gens.
Toute la première partie du livre, c'est un peu ce qu'on vient de voir toutes les deux avant la pause musicale, c'est votre vie, l'arrivée en France, et puis arrive à un moment votre premier livre, donc Soleil de justice, qui est paru en 84, c'est ça, Arlette ?
Oui, c'est-à-dire que Soleil de justice, c'est alors un produit de la CIMAD, vraiment,
ouais.
Parce que bon, il y a deux choses, il y a eu une conjonction. D'abord, nous avons appris que ces deux religieuses avaient été enlevées en Argentine, et que l'une s'appelait Alice Daumont, et l'orthographe étant la même, on a commencé à se demander si. Et effectivement, on a trouvé que c'était une parente de Jean, et nous avons eu l'occasion de rencontrer, d'assister à une fête de famille avec 200 personnes dans le pays de Montbéliard, et nous avons rencontré le père de Sœur Alice, et c'est tout vient de là. C'est lui qui m'a dit: ah, vous travaillez à la CIMAD, peut-être vous pourriez faire éditer ce livre où on parle de ma fille, etc. Bon, moi j'ai dit oui, sans me poser de questions. Et après, alors voilà, je raconte comment ça s'est produit.
Mais c'est vrai qu'on a oublié donc les années d'Argentine, oui. Les folles à la place de mai, enfin tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Oui. Anecdotique, le fait qu'il y ait même des joueurs de foot qui n'ont pas voulu aller en Argentine ces années-là, hein, parce que c'était vraiment années...
Oui, c'était la Coupe du Monde à cette époque, en 77.
Voilà, exactement, la France, l'Argentine des généraux. Et puis, ça a été une des périodes riches, parce que, bon, je ne sais pas, Allende et la fin du Chili, c'était aussi ces mêmes années-là. Oui. Hein. Il y avait la révolution des œillets au Portugal.
Oui,
à la fin de,
c'est
de
vrai,
hein, ça a été quand même des moments où le monde
basculait vers la gauche.
Ouais. Oui, et puis peut-être aussi que, parce que bon, on le dit et ça se sait, mais si l'Amérique du Sud était dans cet état-là, c'était la mainmise de la CIA et de l'Amérique, hein, quand même.
Oui,
c'était déjà les dégâts de l'Amérique du Nord sur le reste du monde. Vous avez pris du plaisir tout de suite à écrire dans ce livre.
Oui, alors, moi, je m'en suis pas rendu compte.
Ouais.
J'ai commencé à écrire parce que, alors, tout évidemment, la famille m'a envoyé des lettres, des copies de lettres d'Alice, donc j'étais au cœur du problème. C'était fantastique. Un de ses amis, qui était prêtre, m'a envoyé rencontrer les sœurs de sa congrégation à Neuilly. Elles étaient à Neuilly, alors j'ai été reçue là-bas comme si j'étais la cousine d'Alice. Enfin bref, formidable. J'ai été tout de suite envahie dans une ambiance... ce qui fait que je me posais pas de questions, j'écrivais. Tout ce qu'on me disait, je racontais. Et j'ai toujours aimé raconter, donc ça coulait de source, voilà.
Et le deuxième livre, c'est J'inventerai mon peuple.
Ben.
Qui est arrivé quand, alors, celui-ci?
Le succès du premier. Parce que, alors là, ça a été terrible. Sur le plan politique aussi, ça fait des vagues, parce que, Madeleine Barrault, qui était l'ancêtre de la CIMAD, si je peux dire, a tout de suite caler ce livre avec avec la CAT, avec Amnesty International et tout ça, et ça a pris quand même des dimensions, j'allais dire politiques. Oui, ça s'est passé pas trop de dire ça. Donc le livre a eu énormément de succès. Il y a eu une réédition. D'ailleurs, c'est la première fois que ça m'est arrivé.
Et de 2000 exemplaires, hein, c'est des.
Une fois que ça a été fini, je me suis dit, ben, au fond, puisque je sais écrire, maintenant j'ai écrit un livre. Bon, ben, je pourrais écrire sur ma famille. Il y a quand même des choses à raconter. Moi, j'avais un véritable western de ma famille qui était à ma, l'autre famille, enfin, la famille paternelle qui était arrivée en après la Commune de Paris dans le sud-ouest. Alors ça, c'est encore. Voilà, le deuxième livre,
c'est J'inventerai mon peuple. Donc, c'est qu'est-ce que vous racontez dans ce livre?
Ben, je raconte l'arrivée de mes arrière-grands-parents.
De cette quatrième génération, alors.
Voilà. Dans le sud oranais, ils étaient riches.
Alors, ils fuient la Commune de Paris, donc c'était pas des gens de.
Non, c'est.
Des révolutionnaires, hein.
L'arrière-grand-père était quand même. Enfin, je sais pas, il y a des choses que j'ai pas connues, que j'ai pas su, que j'ai deviné. Il me semblait comment on appelle ça, ceux qui sont pas armes.
Parce que c'est vrai que on imaginait assez bien à l'époque, les colonies, c'était soit des riches, soit des bagnards presque. Enfin voilà, c'était un peu l'un ou l'autre.
Ou alors des gens pauvres comme les Espagnols aussi, ouais. qui crevaient de faim chez eux, qui venaient travailler là où il y avait du travail. Mmh. Et alors mon arrière-grand-père, lui, avait des magasins à Paris. Il avait un grand magasin un peu dans le style du Bonheur des Dames. Et il a installé ça à Oran. Donc à Oran, il y avait le bazar des villes de France, ça s'appelait. Et c'était tout à fait. Alors bon, ça a duré quelques années. Son frère Géraud est venu travailler avec lui. Et puis je sais pas ce qui a pas marché, ça je ne saurais jamais. En tout cas, le grand-père a pris ses clics et ses claques.
Camus détestait Oran. Il disait que c'était une ville qui tournait le dos à la mer. Alors,
peut-être. Maintenant, je sais pas cette époque comment elle était. En tout cas, c'était très très différent du faubourg Saint-Antoine.
Ouais.
Donc ils sont arrivés. Mais bon, ils sont partis ensuite vers le sud. Et mon arrière-grand-père a perdu beaucoup de choses, beaucoup d'argent.
Mm-hmm.
Et finalement, il n'était plus riche du tout quand il est arrivé à Ain El Hadjar, qui est un pays près de Saïda et près du désert là-bas, et il est mort là parce qu'il était cheminot. Il avait donné un ordre de transporter des rails très très lourds, et
il s'est usé.
Confusion, au lieu de dire jeter, il a dit lâcher ou quelque chose comme ça, enfin bref. Les gens n'ont pas compris, ils ont tous lâché, et lui, il a eu un infarctus, quoi, tout de suite, et il est mort. Et la grand-mère attendait son 14e enfant. Donc,
c'est des vies qu'on n'imagine même plus maintenant.
Voilà.
En 2019, Arlette, vous écrivez Ould El Bled, qui est un pendant de l'autre livre, c'est ça, si j'ai bien compris?
C'est-à-dire, non, c'est un livre en hommage au père François Combinard.
Oui, dont vous avez parlé.
Que
ouais.
Nous avons rencontré à Saïda, et qui est vraiment un homme exceptionnel, avec qui j'ai beaucoup travaillé donc à la CIMAD en essayant de sauver ces jeunes, parce qu'il était un peu le maître à penser des jeunes de la ville. C'était formidable, quoi.
En 2005 paraît le chemin qui mène à la mer, suivi des contes de faits et de méfaits. C'est une écriture spéciale, le conte.
Oui.
C'est plaisant à écrire?
Plaisant, oui, tout à fait. Oh, oui. Oui, j'ai écrit le conte de faits et méfaits, c'est assez intéressant.
C'est plus léger, parce que bon, les autres sujets,
c'est
quand même, les sujets que vous abordez avant sont quand même assez costauds, on va dire.
Oui, non, c'est ça, c'était intéressant parce que, voilà. Et puis alors, je crois que c'est dans ce livre-là que j'ai écrit des nouvelles qui sont aussi qui ont trait à l'Algérie.
Oui, tout à fait. Et puis il y a déjà les couteaux dans l'eau qui sont à l'état d'ébauche et que vous ferez vivre plus longuement après.
Après j'ai repris ça parce que vraiment ça me semblait être digne d'autre chose que d'une nouvelle.
Et puis en 93, l'Algérie en éclat. Alors, c'est la participation à une pièce de théâtre, c'est ça?
J'ai participé, sans le vouloir, j'avais écrit des poèmes en revenant en Algérie sur un article que j'avais fait pour Cima d'information, et d'ailleurs aussi un article de Réforme, qui est parti dans Réforme, sur l'Algérie, sur ce qui se passait à cette époque-là. Et une fois que j'ai écrit l'article, bon, j'avais écrit des poèmes que j'ai lus, où on m'a donné l'occasion de les lire au festival d'Avignon et au temple de la ville d'Avignon. Et à la fin du programme, j'ai donné ces deux poèmes à un ami algérien qui avait initié cette rencontre et qui était très très preneur de tout ce qui s'écrivait sur l'Algérie. J'ai dit bah, tiens, tu prends ça. Effectivement. Et puis 2 ans après, oui, je crois que c'est 2 ans après, je me suis aperçue dans un journal de justement d'une revue algérienne écrite en France, qui racontait cette histoire d'une pièce de théâtre qui s'appelait Algérie en éclat et dont mes deux poèmes faisaient partie. Et qui avait tellement ému les gens qu'ils applaudissaient debout. Alors, moi, j'étais un peu...
Si, c'est chouette. Enfin, c'est chouette.
Oui. Alors, j'ai cherché à les rencontrer. On s'est rencontrés. Alors, enfin, on s'est plus quittés. Je suis allée souvent... On est allé souvent les voir jouer cette pièce qui était très émouvante. C'était justement à la fin de ces années noires. Là, c'était terrible.
Et puis, en 2012, il y a la petite maison de l'autre côté. Et là, c'est le début de la campagnette.
C'est la campagnette. C'est comme ça qu'on appelait notre maison, notre villa. La campagnette, parce que la dame qui avait vendu cette petite campagnette, finalement, à mes parents, a dit « Oh, je la regretterais bien, ma campagnette ». Effectivement, on a trouvé que c'était beaucoup plus joli que la villa de la Pergola, comme elle s'appelait. Et on l'appelait la campagnette, tout le monde appelait la campagnette, voilà, c'est ça.
Ce qui est formidable, et pour revenir au titre, hein, avant que ma bibliothèque ne brûle, c'est que dans chaque... à chaque fois, là, nous, toutes les deux, on parle d'un livre, mais que vous expliquez pourquoi le livre, à quel moment, etc. Le but du livre, c'est de raconter l'histoire des livres.
Il y en a 10, je crois.
Oui. Enfin,
c'est ça.
C'est vraiment ça.
Chacun a son histoire.
Exactement. C'est l'histoire de chaque livre. Ouais. Et là, on arrive, on se rapproche, hein, vous allez si bien à la vie. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Vous avez voulu parler, peut-être c'est le plus intime celui-là, non?
Oui, ça, j'ai voulu parler de nous, j'ai voulu parler de notre manière de voir la vie. Et on a une chère cousine qui nous a écrit cette phrase qu'on a trouvée sublime. On s'est dit, ben voilà, ça c'est le titre de livre.
C'est vrai qu'il y a des gens comme ça. Ce titre me touche beaucoup parce que, quand mon papa est parti, j'ai une amie qui m'a dit, ton père, il aimait tellement la vie. Il était tellement dans la vie.
Exactement.
Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont si bien à la vie, puis il y a des gens moins. Voilà. Le chemin de l'inattendu.
Alors, le chemin de l'inattendu, j'ai voulu quand même que Jean raconte ses histoires à lui parce que, moi, j'ai l'air d'avoir bourlingué partout, mais alors lui, c'est quand même un peu plus avec la télévision, avec tous les reportages qu'il a fait, la Nouvelle-Calédonie, l'Afrique.
Une vie incroyable.
Une vie aussi très, très, très riche.
Presque romanesque, des fois. Si on devait l'écrire, on pourrait en faire du romanesque.
On pourrait en faire un roman, bien sûr, facilement.
Ouais.
Mais c'est pour ça que j'ai voulu quand même qu'il sorte un peu de l'ombre, voilà, parce que c'est pas parce que j'écrivais. Il écrivait aussi bien, lui, d'ailleurs.
Mais il est très connu aussi. Et puis, les couteaux dans l'eau.
Les couteaux dans l'eau, j'ai repris cette histoire, cette expression d'une femme juive d'Alger qui disait que le 15 août, il fallait surtout pas se baigner parce qu'il y avait des couteaux dans l'eau. Ça voulait dire que la mer était mauvaise et qu'il fallait faire très attention, quoi. Et d'ailleurs, c'était pas le 15 août qu'elle s'est trompée, c'était c'était l'équinoxe d'été.
Mais ce qui est formidable dans le livre, je m'en souviens, je vous dis, je l'ai lu il y a 2 ans, mais je m'en souviens bien de ce livre. C'est justement cette espèce d'insouciance, vous le racontez très bien, l'insouciance de la jeunesse algéroise.
Mais oui, c'est ce que j'ai vécu.
Et puis tout d'un coup, le basculement dans le drame, parce qu'il y a un drame à un moment.
Oui.
Ces fameux couteaux dans l'eau, c'est un mouvement de marée presque, hein, enfin, il faut laisser aussi le lecteur le découvrir, mais bon.
Oui, mais c'est ça, c'est sûr que c'est aussi la découverte que j'ai faite, qui m'a un peu bouleversée, mais quand même qui m'a pas empêchée, en arrivant en France, de pas comprendre ce qui s'était passé là-bas. Quoi. Il a fallu que je sois de ce côté pour comprendre.
Et puis il y a l'exorcisme, qui est le dernier, paru avant celui-là, non ?
Ah, l'exorcisme, oui, il a paru aussi. Ah oui, ça, alors là, ça c'était vraiment le premier livre de prise de conscience.
Ouais.
Ça c'était le premier retour en Algérie, auquel je suis arrivée d'ailleurs en reculons, parce que ça me disait rien de retourner à l'Algérie, alors que j'en étais très enthousiaste au contraire. Et quand on a vu l'accueil que nous avons reçu là-bas, et tout ce qu'on a vécu là-bas avec les Algériens, là, je pouvais plus ignorer la vérité. Voilà, ma recherche de la vérité.
Et avant de marquer la deuxième pause musicale, Arlette, vous nous parlez du livre que vous n'avez pas écrit, parce qu'il y en a quand même un que vous avez peut-être pas écrit. Il y en a peut-être plusieurs, avec un hommage évidemment plus que présent à Germaine Tillon.
Ah oui, ça c'était la dernière découverte. Ben, c'était au dernier Maghreb des livres. J'ai acheté les CD audio, enfin de tout ce qu'elle a fait. Cette femme, c'était extraordinaire. Mais en tout cas, ce qu'elle a fait pour l'Algérie, et avec un tout petit peu de retard, ça aurait été merveilleux si elle avait fait un peu avant.
Mm.
Mais il faut dire aussi qu'elle avait quand même une opinion contre elle. Enfin, voilà.
Eh bien, on va marquer notre deuxième pause musicale que vous avez choisie pour nous. Et on ne connaît pas les titres, on va en parler après. Et puis, on se retrouve pour conclure. À tout de suite.
Je suis la prisonnière de l'infamie que tu suis. Je suis le corps par leur viol dévasté. Je suis l'aide par leur haine pour chasser. Je suis là par leur horreur torturée.
أصدر من يرغان أصدد في اليسان أزرو يحفان أنا الدام الثيل ما زلت بالذار فرق لي ضالة صدي من طولي ما دام الثيل
Je suis le cœur par le barbarité mais je suis le courage des combats et hante ma blessure j'ai mal à mes enfants décapités à l'honneur
I'm not afraid to die.
Et nous nous retrouvons après cette pause musicale pour conclure ce rendez-vous avec Arlette Daumont. Arlette, on a parlé des livres que vous n'avez pas écrits. Tous les livres sont toujours disponibles ? Vous savez si les livres dont on vient de parler sont toujours disponibles ou pas ?
Oui. J'en ai quelques-uns. J'ai des exemplaires.
Et puis, je voulais donner rendez-vous donc à nos auditeurs. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8, donc je vous ai proposé cette rencontre avec Arlette Velty-Daumont. Mais le 10, à l'EHPAD Malbosque, on organise une petite rencontre.
Oui,
qui sera, voilà, un entretien, voilà, que j'aurai le plaisir d'animer et qui sera en entrée libre.
Absolument.
Voilà, et qui sera à 16h, donc le vendredi 10. Je crois qu'on a 15h. 14h, vous avez raison.
14h30,
voilà. 14h30. Je mettrai l'heure exacte sur le podcast de l'émission, comme ça on se trouvera pas.
14h16 ou 14h30, 16h30.
Et en plus, donc on parlera du livre, on parlera des livres, et puis vous pourrez poser des questions. Donc si vous avez écouté l'émission aujourd'hui, que vous avez envie de poser des questions à Arlette, rejoignez-nous le vendredi 10 à 14h, 14h30, je vous dirai l'heure exacte.
Exact, j'ai quand même pas tout dit.
Voilà, il y a encore plein de choses. Merci beaucoup Arlette.
Avec grand plaisir.
De ce moment passé ensemble. Merci Jean qui nous a écoutés. Et puis merci à l'EHPAD de nous avoir reçus. À la semaine prochaine pour un autre... aéropage, et on parlera de Cézanne la semaine prochaine. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM+.